RFI, 8h à Paris, 6h en temps universel.
RFI Matin.
Bonjour Marion Kazanov.
Bonjour Julien Coquelroem.
Un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours en Ukraine, c'est ce que devrait réclamer une poignée de dirigeants européens à Kiev aujourd'hui.
Parmi eux Emmanuel Macron, Friedrich Merz, qui devrait aussi préciser les contours d'une coalition de soutien à l'Ukraine. L'Inde et le Pakistan restent sourds aux appels à la désescalade. L'escalade militaire franchit même un palier avec des frappes indiennes tôt ce matin sur des bases militaires pakistanaises, notamment près de la capitale où nous attend notre correspondante. On y revient aussi dans quelques minutes avec le grand invité international de RFI. Et puis la guérilla kurde du PKK organise sa dissolution quelques semaines après l'appel historique de son chef. Le groupe armé s'est réuni en congrès. Une paix semble se dessiner avec la Turquie.
Un discret voyage de nuit pour une visite historique à Kiev.
Les dirigeants français, allemands et britanniques sont arrivés ce matin dans la capitale ukrainienne après un long périple en train où on a vu Emmanuel Macron, Friedrich Merz et Keir Starmer souriant, en tenue décontractée dans leur wagon. Ils doivent retrouver donc le dirigeant polonais Donald Tusk et surtout Volodymyr Zelensky, président ukrainien. L'enjeu est de préciser notamment les contours d'une coalition de soutien à Kiev. Kiev où l'on retrouve notre correspondante Emmanuel Chaz. Surtout, Emmanuel, les Européens doivent appeler à un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours avec la Russie.
Oui, tout à fait. Une journée seulement après cette démonstration de force de Vladimir Poutine à Moscou pour les célébrations du 9 mai, visite hautement symbolique ici en Ukraine des dirigeants français, britanniques, allemands et polonais pour afficher leur soutien et surtout pour œuvrer à la création de ce cessez-le-feu inconditionnel, de cette proposition qui est soutenue par les États-Unis, mais que la Russie a refusé jusqu'à présent. Un autre de ces enjeux, ce n'est pas seulement de mettre en avant cette proposition, c'est aussi d'assurer les garanties de sécurité à l'Ukraine pour que si cessez-le-feu il y a, qu'il soit de 30 jours ou de plus, si on s'achemine vers une paix, que l'Ukraine ait des garanties sur son sol, qu'une attaque, une prochaine attaque russe ne sera pas possible. Donc ce sera en fait le point principal discuté lors de cette rencontre aujourd'hui.
Emmanuel Chaz, en direct de Kiev pour RFI. Cette visite, vous le disiez Emmanuel, intervient au lendemain de ces défilés militaires en Russie. Défilés en présence de chefs d'État étrangers, notamment chinois, brésiliens, mais aussi slovaques. Les Européens ont d'ailleurs critiqué la présence de Robert Fico à Moscou. À noter aussi, Xi Jinping, le président chinois, a rencontré hier dans la capitale russe, en marge de ces cérémonies, le chef de la junte birmane. Première rencontre depuis le coup d'État de 2021.
La Chine, comme les États-Unis, exhorte ce matin à une désescalade immédiate entre l'Inde et le Pakistan.
L'affrontement entre les deux puissances nucléaires a franchi un nouveau palier ce matin puisque l'Inde a frappé 3 bases militaires au Pakistan, dont l'une tout près de la capitale, Islamabad, près de 3 semaines après l'attentat au Cachemire indien où New Delhi accuse son voisin. Les tensions s'aggravent donc. Sonia Ghezali, vous êtes notre correspondante à Islamabad. Le Pakistan a d'ailleurs répliqué il y a peu. Sonia, on peut dire donc qu'un palier a été franchi ce matin.
Oui, en effet, le Pakistan a lancé une opération militaire qui porte le nom d'opération Bunyan Marsous, cette traduction mur incassable. Elle a été lancée après que des missiles indiens ont été tirés contre des bases aériennes très tôt ce matin. Les bases de Shorhot, de Murid et celles de Nurhan, celles-ci se trouvent à 10 km d'Islamabad, la capitale, où les habitants ont d'ailleurs entendu 2 grosses explosions aux alentours de 3h du matin. Explosions rapportées également hier au-dessus de la ville de Lahore. Il s'agissait, semble-t-il, d'un drone intercepté, comme l'auraient d'ailleurs été la plupart des missiles air-sol lancés par l'Inde au Pakistan. C'est ce qu'affirment les autorités ici. Le porte-parole de l'armée a pris la parole dans une allocution télévisée tôt ce matin. Il a accusé, je cite, l'Inde de pousser toute la région dans une guerre dangereuse. Attendez notre réponse, a-t-il lancé. Et depuis, les frappes de missiles, les tirs d'artillerie et les attaques de drones se succèdent entre les deux voisins. Le Pakistan dit avoir frappé plusieurs sites militaires en Inde au cours de ces dernières heures.
Sonia Ghezali, correspondante de RFI à Islamabad.
Et on en reparle de cette escalade dans quelques minutes avec notre grand invité international Jean-Luc Racine, directeur de recherche émérite au CNRS. Les catholiques du monde entier apprennent à connaître leur nouveau pape.
Léon XIV, désigné il y a moins de 48 heures, il fera une nouvelle apparition demain, place Saint-Pierre, à l'occasion de la prière dominicale. Un pape américain qui vient de l'ordre des Augustiniens, un ordre religieux réputé attaché à la charité. Il serait donc, dans ce domaine-là, dans la continuité du pape François qui avait placé les plus démunis au cœur de son action. Il avait même, François, inauguré un lieu pour abriter des sans-abri au Vatican. Nicolas Roca s'y est rendu, reportage au palais Migliori.
Adossé à la place Saint-Pierre, sur un petit panneau, on peut lire « Sant'Egidio », du nom de cette communauté de fidèles catholiques engagés dans la lutte contre la pauvreté. Carlo Santoro est responsable du lieu devant lequel attendent des sans-abri.
On avait vu que cet palais, il était vide. Donc on a pensé pourquoi pas utiliser pour les pauvres.
Il nous mène à travers les couloirs de ce palais où vivent 45 sans-abri. Un lieu offert par le Vatican puis inauguré par le pape François en 2019 qui offre aussi des repas aux personnes dans le besoin. Sarah nous donne le menu. Des pâtes au calamar, à la tomate que Rosa va déguster ce soir.
Ici j'ai tout, il me manque rien. Docteur, douche, sommeil, dîner, petit déjeuner, vêtements. Je passe mes journées dans les colonnades. Et à 21h, je vais me coucher comme les enfants.
Fan du pape François, elle espère voir son héritage se poursuivre.
Espérons qu'il soit aussi bon que le pape François.
Ici sont hébergés et nourris des Italiens, mais pas uniquement. Carlo Santoro.
Tous les immigrés qui ont essayé de venir en Europe et sont morts dans la Méditerranée, ils ont été une terrible perte pour l'humanité. Nous n'avons pas peur. Un nouveau pape qui veut oublier les pauvres. Les pauvres, maintenant, sont au centre de l'Église.
Du moins, ils sont une priorité de la communauté Sant'Egidio, parfois critiquée, notamment pour ses actions de médiation diplomatique par certaines branches plus conservatrices de l'Église catholique. Nicolas Roca, Rome, RFI.
Et deux associations contre les violences sexuelles dans l'Église ont, elles, partagé leur inquiétude sur le nouveau pape. Elles critiquent le silence de Léon XIV sur le sujet lorsqu'il était au Pérou. Ces ONG lui reprochent de n'avoir publié aucun nom de coupable parmi les prêtres qui ont été accusés de violences sexuelles dans son diocèse entre 2015 et 2023.
RFI 8h07, à Port-Soudan. Au Soudan, les paramilitaires FSR continuent de frapper la capitale provisoire.
Port-Soudan était jusque-là épargné, mais est ciblé depuis près d'une semaine par des frappes aériennes. Les FSR qui utiliseraient pour cela des armes chinoises dans un rapport. Amnesty International met en cause Pékin dans la fourniture indirecte d'armes aux paramilitaires. La Chine a d'ailleurs appelé ses ressortissants à quitter immédiatement le pays. Ces armes, toujours selon le rapport d'Amnesty, sont fournies par les Émirats Arabes Unis en violation de l'embargo sur les armes de l'ONU. C'est ce que rappelle Aymeric Éluin, chargé de plaidoyer auprès d'Amnesty International.
Deux types de matériel de guerre ont été documentés. D'une part, et pour la première fois, utilise dans un conflit armé des bombes guidées d'origine chinoise, fabriquées par Norinco, grande entreprise publique de la défense chinoise, qui sont utilisées au moyen de drones dont disposent les forces dirigées par le général Emetic. Et également, nous avons documenté aux mains de ces mêmes forces paramilitaires des obusiers de 105 mm de type AH-4, produits donc par la Chine et encore une fois produits par l'entreprise Norinco. Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'une nouvelle fois, on constate que ces équipements n'ont pas été transférés directement au Soudan. Et pour cause, le Soudan fait l'objet d'un embargo, un sur le Darfour et un sur l'ensemble du pays. Que ces équipements ont été achetés à la base par les Émirats Arabes Unis à la Chine et réexportés à destination des forces d'appui rapide. Alors, deux conclusions, c'est que nous constatons une nouvelle fois que les Émirats Arabes Unis ne cessent de renforcer leur soutien aux forces paramilitaires, que les Émirats Arabes Unis, une nouvelle fois, font du détournement d'armes. Quand vous vendez des armes, en général, c'est pas pour que votre acheteur les réexporte vers des destinations que vous n'avez pas autorisées. Et la Chine, il faut le savoir, est un État parti au traité sur le commerce des armes. Donc, la Chine a l'obligation, lorsqu'elle exporte des armes, de s'assurer que ces armes ne soient pas détournées.
Aymeric Éluin, chargé de plaidoyer auprès d'Amnesty International, propos recueillis par Alexandra Branjon. Les Émirats Arabes Unis ont rejeté ce rapport d'Amnesty International. Ces affirmations sont sans fondement et dénuées de preuves, a affirmé le ministre adjoint pour la sécurité et les affaires militaires dans un communiqué posté sur les réseaux sociaux par le ministère émirien des Affaires étrangères. Au Mali, la manifestation contre la dissolution des partis politiques a été reportée. La capitale Bamako est donc resté calme hier. En revanche, plusieurs cas d'enlèvement et de tentatives d'enlèvement d'hommes politiques ont eu lieu hier et avant-hier. Et avant-hier, une source sécuritaire malienne affirme que la sécurité d'État se livre à ces enlèvements. L'objectif semble clair, étouffer le mouvement de contestation. Plus d'informations sur notre site internet à la une de notre rubrique Afrique.
Plus de deux mois après l'annonce historique de son chef, le PKK prépare son démantèlement.
Abdullah Öcalan avait appelé fin février à la dissolution de la guérilla kurde. Une paix semble donc se dessiner entre le parti des travailleurs du Kurdistan et la Turquie après des des décennies de combats. Les cadres du groupe armé en ont discuté, en tout cas dans un congrès. Les précisions à Erbil de notre correspondant Lucas Lazo.
C'est dans le plus grand secret que les cadres du PKK se sont réunis du 5 au 7 mai pour organiser le 12e congrès de l'histoire de l'organisation et peut-être le dernier. Dans une déclaration publiée hier, la guérilla kurde a révélé avoir tenu conseil dans deux positions confidentielles des montagnes du Kurdistan irakien, là où la plupart des combattants sont retranchés, et ce alors que les bombardements turcs se poursuivent dans la région. S'y sont retrouvés les principaux dirigeants pour répondre à l'appel du leader Abdullah Öcalan, toujours incarcéré en Turquie, mais avec qui des contacts ont pu être noués au cours du congrès. Ce dernier avait invité, fin février, l'organisation qu'il a fondée en 1978 à se dissoudre, considérant que les conditions ne sont plus réunies pour poursuivre la lutte armée contre la Turquie et que les droits des Kurdes devraient désormais être défendus par des voies démocratiques. Les conclusions du congrès n'ont pas encore été publiées et plusieurs questions se posent à ce jour. Qu'adviendra-t-il des 5000 combattants du PKK en Irak? Bénéficieront-ils d'une amnistie? Mais après plus de 40 ans de conflit armé, le processus de paix suit son cours. Lucas Lazo, Erbil, RFI.
Golfe d'Amérique, l'inscription est désormais entre parenthèses après la mention Golfe du Mexique sur les cartes de Google.
Cela dépend où vous vous trouvez dans le monde, mais quoi qu'il arrive, Google Maps fait apparaître désormais cette mention, Golfe d'Amérique. Comme l'a renommé Donald Trump, c'est l'une des annonces extravagantes qui marque son début de mandat. Au Mexique, la présidente est agacée de ce changement opéré par Google. Claudia Sheinbaum a d'ailleurs annoncé des poursuites contre les géants américains. À Mexico, Gwendolina Duval.
Google ferait du zèle et se trompe en rebaptisant l'ensemble du Golfe du Mexique, selon la présidente Claudia Sheinbaum, qui affirme que son gouvernement a fait une demande auprès du géant de l'Internet pour corriger.
Le décret qu'a émis le gouvernement américain parle du Golfe d'Amérique seulement pour la partie qui concerne les États-Unis, pas tout le Golfe, parce qu'ils ne peuvent pas s'octroyer ce droit. Il s'agit d'une compétence internationale.
Dès lors qu'il concerne plusieurs pays de la communauté internationale, un changement de nom doit être proposé et décidé au sein des Nations Unies. Le Mexique insiste donc pour que Google fasse la différence entre le golfe du Mexique et l'espace sur 22 km depuis les côtes américaines qui forment ses eaux territoriales.
Nous ne pouvons rien dire s'ils veulent changer le nom d'un de leurs États, d'une montagne ou d'un lac. Ils peuvent nommer leur territoire comme ils le veulent, mais la partie qui concerne le Mexique ne peut pas être renommée.
La chef d'État mexicaine affirme que le sujet n'a pas encore été abordé avec son voisin, alors que les deux pays sont à la table des négociations depuis des mois, notamment sur le plan économique. Gwendolina Duval, Mexico, RFI.
Et la suite de RFI Matin, c'est avec Julien Coquel-Rohem.
Merci Marion Cazanov. RFI Matin, la suite. Dans quelques minutes, on décrypte l'accélération cette nuit de l'escalade militaire entre l'Inde et le Pakistan avec notre invité, le chercheur Jean-Luc Racine. Mais tout de suite, c'est le journal des sports. Avec vous Antoine Grenier, le football en France, la saison de Ligue 1 approche de son dénouement.
33e et avant-dernière journée ce samedi, tout le monde sur le pont à 19h, temps universel, avec comme principal enjeu le suspense autour des tickets européens. 6 clubs peuvent encore théoriquement y croire. Marseille, 2e en déplacement au Havre, Monaco qui reçoit Lyon, Nice en visite à Rennes ou Lille en route pour Brest. Le LOSC à égalité de points avec les Niçois mais aussi Strasbourg, d'où la nécessité de ne pas trop gamberger, rappelle le défenseur nordiste Thomas Meunier.
Tout le monde est convaincu qu'il y a autre chose à faire que de stresser, à se poser trop de questions. Juste aller à 100%. Il ne faut pas commencer à trop penser. Le fait que toutes les équipes jouent en même temps, se demander ce qui se passe à la mi-temps, etc. Ce n'est pas des choses qui sont recommandables à partir du moment où on est sur le terrain. C'est pour faire le job, tout simplement. Et dans notre situation, il n'y a plus de calcul à faire. La situation est tellement serrée entre les clubs du top 6, top 7, que le principal ici, ce sera vraiment d'empocher la victoire, même si la manière et le résultat font toujours un bon combo.
Et en bas de tableau, Saint-Etienne, 17e, jouera sa survie sur le terrain de Reims.
En Angleterre, 36e journée de Premier League, Manchester City vise la passe de 5.
Les Citizens qui terminent en trombe avec 4 succès de suite et qui peuvent revenir à hauteur d'Arsenal à la 2e place s'ils s'imposent sur Southampton à partir de 14h, temps universel.
En basket, les playoffs NBA, Cleveland se réveille.
Les Cavaliers vainqueurs des Pacers d'Indiana 126 à 104, de quoi permettre à Donovan Mitchell et consorts de recoller à 2 victoires à 1 dans leur série. Dans l'autre série, il a fallu aller jusqu'aux prolongations et les Nuggets de Denver se sont imposés 113 à 104 sur OKC. Ils reviennent ainsi à une victoire partout.
Les sports de combat également au programme de ce journal et une Française en lice pour un titre majeur en MMA.
Manon Fiorot rêve de réaliser le rêve par deux fois brisé de Cyril Gane. La combattante niçoise de 35 ans affronte dans la nuit de samedi à dimanche une légende de la catégorie des moins de 57 kilos, la Kirghize Valentina Shevchenko. Invaincue depuis ses débuts à l'UFC, Manon Fiorot part favorite du combat qui aura lieu à Montréal au Canada, sans aucune pression.
C'est l'adversaire la plus dure que j'ai affrontée jusqu'à maintenant. Mais voilà, on voit qu'elle est plus sur la fin. Ces trois derniers combats, ils ont été beaucoup plus compliqués que les miens. Je pense que j'ai des victoires beaucoup plus écrasantes que les siennes. Et elle, ça a été des combats compliqués quand même. Je pense que c'est une des premières fois où Valentina n'est pas favorite et c'est moi la favorite pour ce combat-là. C'est juste un combat de plus parce que je crois que tous mes combats, j'ai toujours été favorite. Non, pour moi, ça change rien. Je me vois gagner ce combat quoi qu'il arrive, mais... Et j'aime bien en fait le fait d'être favori, je préfère ça.
Valentina Shevchenko, Manon Fiorot, un combat pour les noctambules puisqu'il ne devrait pas démarrer avant 2h temps universel.
Allumez la cafetière. Et puis pour finir du cyclisme, et Mats Pedersen, premier rose sur le Tour d'Italie.
Le Danois a remporté la première étape à Tirana et endossé le premier maillot rose de leader de cette 108e édition. Le coureur de Lidl Trek, vainqueur au sprint devant le Belge Wout van Aert. Une première étape qui s'est achevée dans l'inquiétude concernant l'Espagnol Mikel Landa qui a lourdement chuté à 5 km de l'arrivée et a été évacué sur civière. Ce samedi, deuxième étape, un contre-la-montre de 13,7 km dans les rues de Tirana, la capitale albanaise.
Merci Antoine Grenier, à tout à l'heure.
RFI Matin.
Et dans Menace sur l'information, ce matin, cap sur le Kenya, où la liberté de la presse est aujourd'hui sous pression économique. Le journal Daily Nation en a fait les frais après avoir révélé un scandale impliquant le gouvernement et l'opérateur Safaricom, plus grand fournisseur de télécommunications du pays. C'était en juin 2024, au plus fort des manifestations qui ont secoué le Kenya. Christina Okello.
Ce sont des plaintes venues de la rue qui ont alerté les journalistes. Des familles ont dénoncé des disparitions inexpliquées de leurs membres après les manifestations contre la loi des finances. Le Daily Nation décide alors d'enquêter. Très vite, la révélation dérange. L'opérateur, Safaricom, est accusé d'avoir transmis des données privées d'abonnés aux forces de sécurité, facilitant ainsi l'identification des manifestants, des organisateurs et de leur soutien financier. Un travail essentiel, mais qui va coûter cher au journal. Safaricom suspend ses publicités. Privée de ressources, la rédaction se retrouve fragilisée. Eric Odur, secrétaire général du syndicat de journalistes kényan, raconte.
Quand il n'y a plus d'argent, la première solution, c'est de réduire les effectifs et de renvoyer le personnel. Déjà, l'année dernière, Nation Media avait licencié beaucoup de journalistes, y compris moi-même.
Ces pressions économiques, déjà pointées par Reporters sans frontières dans son dernier classement, ne viennent pas seulement des entreprises au Kenya.
Ce n'est pas que Safaricom. Le gouvernement aussi a suspendu ses publicités pour sanctionner des médias critiques. Ce sont des tactiques employées aussi bien par des groupes privés que par le gouvernement pour faire taire les médias simplement parce qu'ils font leur travail.
Pour beaucoup de journalistes, choisir le silence devient parfois une question de survie.
Certains journalistes préfèrent éviter certains sujets de peur d'être poursuivis en diffamation. Le risque de perdre son emploi ou de devoir assumer seul des frais d'avocat suffit à dissuader d'enquêter, même les plus déterminés.
La répression ne s'arrête pas là. Récemment, quatre journalistes travaillant sur un documentaire de la BBC qui dénonçait la répression sanglante des manifestations ont été arrêtés et demandaient au gouvernement de rendre des comptes. Libérés depuis, leurs ordinateurs et téléphones sont toujours confisqués. Un avertissement clair, selon Eric Odur, adressé à toute la profession.
C'est de l'intimidation, c'est un message adressé aux journalistes. On leur dit, si vous touchez à des sujets sensibles, on viendra vous chercher.
Pour Eric Odur, cette spirale ne doit pas devenir la norme. Il plaide pour un sursaut collectif afin de défendre la liberté de la presse au Kenya.
Il faut défendre nos droits, offrir une assistance juridique, former les journalistes à travailler en environnement hostile et faire appliquer les lois qui protègent la liberté de la presse. Il faut aussi interpeller les employeurs, garantir un climat de travail digne et sécurisé. C'est leur responsabilité.
Un bras de fer désormais porté devant la justice, Safaricom a déposé plainte contre Nation Media Group le 3 avril dernier pour diffusion de fausses informations. L'affaire est toujours en cours.
Christina Okello. 8h20 à Paris, est-ce une situation qui risque de dégénérer alors que le G7 appelle à une désescalade immédiate, que la Chine fait de même et que les États-Unis proposent une médiation 3 jours après le début des représailles indiennes sur le territoire pakistanais après l'attentat du 22 avril. Dans le Cachemire indien, l'escalade militaire s'accélère et semble avoir franchi un cran cette nuit. Des frappes indiennes sur des bases militaires pakistanaises, une riposte pakistanaise en cours sur le territoire indien. Jusqu'où peut aller cette confrontation qui a déjà fait plus de 50 morts, quasiment tous civils, dans les deux pays? Comment interpréter les déclarations et les actions des deux côtés de la frontière? À quoi peut-on s'attendre désormais? On en parle avec notre grand invité international ce matin. Bonjour Jean-Luc Racine.
Bonjour.
Directeur de recherche émérite au CNRS, chercheur senior au think tank Asia Centre. Merci beaucoup d'être avec nous alors que la situation évolue très vite, depuis hier. Quel terme choisir ce matin pour qualifier ce à quoi on assiste entre l'Inde et le Pakistan? Sommes-nous aux prémices d'une guerre?
Les prémices, en tout cas, cette réponse ne veut pas dire qu'une guerre de grande ampleur va nécessairement avoir lieu, mais là, cette nuit, on est témoin d'une escalade inquiétante. Ce qui veut dire aussi que tous les appels internationaux à calmer le jeu n'ont pas été entendus. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que à côté de la guerre des militaires, il y a une guerre de l'information qui fait qu'il est très difficile de savoir très exactement, non pas ce qui se passe. On sait qu'il y a eu des tirs réciproques, et cette fois sur des bases militaires, ce qui évidemment change la donne par rapport à ce qui avait été fait auparavant. Mais les résultats de ces frappes, si vous lisez les commentaires pakistanais, les commentaires indiens, vous n'avez pas les mêmes réponses. Mais en tout cas, l'escalade, elle est là. La question est de savoir quand ça va s'arrêter. Chacun, évidemment, dit « nous sommes pour la paix », mais ça dépend de ce que l'autre va faire.
Avec ces frappes indiennes sur 3 bases pakistanaises, dont l'une tout près de la capitale, avec la réponse pakistanaise, on peut dire en tout cas qu'il y a eu une bascule cette nuit, qu'on s'est rapproché d'une guerre.
Oui. Alors, on est même...
On y est peut-être déjà.
On y est peut-être déjà. Bon, après, évidemment, la définition de la guerre, c'est quelque chose qui peut fluctuer. On n'est plus dans les cas de figure de ce qu'était la guerre de 1971, ou celle de 1965, ou celle qui a suivi ce qu'on appelait la guerre de Kargil, où au-delà des canonnades, l'infanterie était aussi mobilisée côté indien. Donc là, on est tir de missiles et autres, avions de combat, avec un certain flou dans les déclarations, encore une fois, qui viennent d'un côté ou d'un autre quant au résultat de cette escalade. Mais il est vrai qu'elle est inquiétante.
Tout le monde s'accorde en tout cas pour dire que cette confrontation est la pire entre les deux pays depuis au moins 20 ans. Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, évoque le risque ce matin d'erreur de calcul. Il y a un risque aujourd'hui que la situation échappe à des armées qui, pour l'instant, semblent la contrôler ou du moins veulent le montrer.
Oui, alors la question est de savoir ce que veut dire Monsieur Rubio, c'est-à-dire est-ce que le risque porte sur les forces nucléaires. Bon, en principe, les Indiens comme les Pakistanais savent parfaitement que le nucléaire, c'est fait pour ne pas s'en servir. C'est le principe même de la dissuasion. Mais au-delà de cela, il peut y avoir des escalades. Déjà, le fait, comme je me répète, mais le fait que des cibles militaires aient été ciblées des deux côtés, c'est en soi une escalade. Après, il reviendra aux politiques côté indien, aux politiques et aux militaires côté pakistanais, de décider quand on s'arrête. Hein. Chacun dit tout dépend de ce que fera l'autre, mais ça, c'est un engrenage.
Avec ces frappes en profondeur de l'Inde au Pakistan, avec la réponse du Pakistan depuis mercredi qui a abattu aussi il y a quelques jours plusieurs avions de l'armée indienne, avec ce refus de la désescalade très clairement exprimé par ces deux pays, on voit en tout cas que cet épisode prend une autre voie que les derniers en date, notamment celui de 2019 qui n'avait pas été aussi loin. Comment expliquer que cette escalade prenne une telle ampleur aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a changé entre les précédentes et ce qu'on voit actuellement ?
Ce qui a changé, c'est sans doute, je ne sais pas s'il faut dire radicalisation, mais en tout cas des affirmations nationalistes encore plus fortes que d'habitude. Hein. Bon, il faut bien se rappeler que tout ça s'inscrit dans les contradictions indo-pakistanaises sur la fameuse question du Cachemire qui a été ouverte dès les lendemains de la partition de 1947 et qui reste toujours
ouverte. Qui n'a jamais été résolue.
Donc là, avec les nationalistes hindous d'un côté du Premier ministre Narendra Modi qui cristallise un sentiment nationaliste qui s'appuie sur une unanimité politique, c'est-à-dire que tous les partis d'opposition soutiennent le gouvernement dans cette affaire, et c'est la même chose du côté pakistanais, avec en outre un chef de l'état-major, le général Munir, qui, une semaine avant le 22 avril, avait tenu un discours face à la diaspora pakistanaise qui était à Islamabad, un discours d'une grande dureté sur finalement ce qu'était la logique de la partition. Oui, les hindous et les musulmans n'ont rien à voir en commun, etc. Très idéologique, au-delà de sa fonction de chef des armées, en quelque sorte. Donc, dans les deux pays, il y a un renforcement du sentiment national, et comme toujours, les guerres ou ce qui s'en approche contribuent à renforcer un mouvement qui était déjà en cours.
Il y a aussi la question de l'eau. Plusieurs des fleuves qui irriguent le Pakistan prennent leur source en Inde, et depuis de longues années maintenant, Narendra Modi menaçait d'utiliser cette arme. Cette fois, il met cette menace en application. On voit que le débit du fleuve Chenab a été réduit cette semaine. C'est particulièrement inquiétant.
Narendra Modi demandait depuis des années une renégociation du traité des eaux de l'Indus conclu en 1960 sous l'égide de la Banque mondiale. Le Pakistan a refusé de renégocier, un traité qui l'avantage plutôt en réalité. Mais là encore, le Pakistan dit l'Inde a frappé un des sites, un des barrages, et l'Inde dit pas du tout. Mais c'est un tournant parce que là, si l'Inde réussissait à contrôler toutes les eaux, ce qui n'est pas facile techniquement, nous disent les experts en hydraulique, c'est toute l'agriculture pakistanaise qui serait en jeu.
Ça concerne des centaines de millions de personnes. De quels moyens de pression dispose la communauté internationale aujourd'hui ?
Pour le moment, pas grand-chose, puisque là, j'observe que Rubio...
Les États-Unis proposent une médiation.
Ils proposent une médiation, alors qu'il y a encore 48 heures, le vice-président Vance, fidèle à lui-même, disait tout ça, ça nous concerne pas, qu'ils règlent leurs questions entre eux, ça n'a pas d'intérêt pour les États-Unis. Ce qui n'est pas très perspicace, parce que quand même, c'est un genre de conflit qui mérite une certaine attention. Bon, la Chine... qui a une certaine influence sur le Pakistan, a demandé
aussi... Qui lui fournit la plupart de ses armements.
Oui, de calmer le jeu. Il y a eu des tentatives de médiation iranienne avec le ministre des Affaires étrangères à Islamabad et quelques jours plus tard à Delhi. Les Saoudiens s'en mêlent aussi. Les Britanniques, je crois, ont proposé une médiation. Pour le moment, les décisions restent vraiment dans le camp des deux parties.
Et des deux parties qui, pour l'instant, ne semblent pas du tout répondre ou réagir à ces appels à la désescalade. Merci beaucoup, Jean-Luc Racine. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, chercheur senior au think tank Asia Centre à Paris. Invité d'RFI Matin, à très bientôt.
À très bientôt.
Et bonne journée, bien sûr. Il est presque 6h30 en temps universel et l'info continue sur la radio du monde.
Ici l'Europe.
Édition spéciale sur RFI et France 24.
avec Valérie Gass et Caroline de Camaret.
Pour la journée de l'Europe, nous nous installons place de la République pour un grand débat ouvert à tous avec des eurodéputés et le maire de Bruxelles.
Nous parlerons de logement et de climat. Ces deux questions sont-elles des priorités pour l'Europe ? Rendez-vous tout à l'heure à 21h05 temps universel sur RFI.
La Nuit européenne des musées est de retour samedi 17 mai. Le ministère de la Culture invite à découvrir les musées autrement. Dès la nuit tombée, profitez gratuitement d'une programmation exceptionnelle partout en France et en Europe. Au programme, visite à la lampe torche, spectacles, concerts, circuits, ateliers, pour une soirée unique. La Nuit européenne des musées, le samedi 17 mai. Plus d'informations sur nuitdesmusées.fr. En partenariat avec France Média Monde.